Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question, au micro Catherine Mann et Rondro Tshizaza. Bonjour Rondro.
Bonjour Catherine, bonjour à tous nos auditeurs.
Alors le thème de notre émission actuellement c'est « Comment la Bible nous parle-t-elle de la prière ?» Et nous essayons de cerner dans les textes bibliques les différentes façons de prier, en nous approchant au plus près de la définition du catéchisme de l'Église catholique, qui nous dit que la prière est une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Donc nous parcourons la Bible en cherchant des moments où des personnages bibliques ont avec Dieu cette relation-là, vivante et personnelle, et en essayant en même temps d'y trouver surtout de quoi enrichir notre propre manière de prier. Lors de la précédente émission, nous avions terminé la lecture du livre des Juges. Donc nous abordons aujourd'hui l'histoire des rois d'Israël. Mais dans la Bible, celle-ci commence avec les deux livres de Samuel. Le prophète Samuel fut en effet à la fois le dernier des juges et le premier des prophètes, celui qui fut chargé par Dieu d'instaurer la royauté. Mais commençons d'abord par raconter l'histoire de Samuel, dont la vie même est le fruit de la prière. En effet, nous voyons au début du premier livre de Samuel un récit assez fréquent dans la Bible, celui de deux femmes, épouses d'un même homme, mais l'une d'elles est stérile, bien qu'elle soit la préférée de son mari, et l'autre, qui a mis au monde de nombreux enfants, se moque et humilie la femme stérile.
Oui, et cette femme stérile, dont le nom est Anne, elle est complètement désespérée. Elle pleure, elle n'arrête plus de pleurer, et elle finit par refuser de s'alimenter. Et même cette préférence de son mari, son amour, n'arrive plus à la consoler. Alors, Anne va se rendre au temple pour prier le Seigneur, et nous lisons sa prière dans le premier livre de Samuel, donc au chapitre 1, versets 10 et 11. Et elle dit ceci. « Pleine d'amertume, elle adressa une prière au Seigneur en pleurant à chaudes larmes. Elle fit le vœu que voici. Seigneur Tout-Puissant, si tu daignes regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et donner à ta servante un garçon, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Nous avons déjà vu cette forme de prière dans le livre des Juges. C'est une prière en forme de vœu. Et dans ce vœu, Anne offre déjà à Dieu l'enfant qu'il lui donnera. Alors ça ressemble un peu au vœu de Jephté, souvenons-nous, qui offre à Dieu le sacrifice de sa fille parce qu'il avait obtenu une victoire militaire. À la différence quand même qu'ici, Samuel vivra et même il aura une belle vie consacrée au service du Seigneur. Mais quand même, on voit que sa mère a décidé seule du destin de l'enfant et on peut se demander si celui-ci n'a pas souffert de cette séparation totale de sa famille.
Oui, c'est une curieuse habitude qu'on a gardée d'ailleurs ici jusqu'au Moyen-Âge. Cette habitude d'offrir un enfant au Seigneur dans les monastères, dans ce qu'on appelait les petits oblats. Alors, les parents avaient des droits absolus sur leurs enfants, mais cette oblation était considérée généralement pour le bénéfice du plus grand nombre, parce qu'en fait, le statut religieux est une grande dignité et aussi un grand bien pour l'ensemble de la société. Et puis, rien dans le texte biblique ne nous dit que Samuel fut malheureux dans le temple. Au contraire, sans doute, puisqu'il va devenir un familier de Dieu. Et puis surtout, Anne, sa mère, a tellement besoin d'un fils pour être enfin heureuse qu'elle préfère se séparer de lui dès les sevrages plutôt que de rester stérile. Et c'est d'ailleurs avec la bénédiction d'Élie, le grand prêtre, que la prière d'Anne montera vers le Seigneur qu'elle sera exaucée et donnera enfin naissance à un fils auquel elle donnera le nom de Samuel, qui sans doute signifie chemin, hein, entendre, Shmuel, Dieu a entendu. Et ensuite, comme tous les fils miraculeux de la Bible, ceux qui sont nés de femmes stériles, il aura un rôle majeur dans l'histoire d'Israël. Mais je me demande si de nos jours, ce type de prière en forme de vœux a encore sa place dans la foi chrétienne. Il y a quand même quelque chose d'un peu choquant pour nos habitudes dans ce type de marchandage avec Dieu, surtout quand il engage la vie de quelqu'un d'autre, sans son consentement préalable.
Il est vrai que le catéchisme n'enseigne pas aux enfants à négocier avec Dieu en sorte de, une sorte de donnant-donnant. On ne leur propose pas, on ne leur apprend pas de prier avec des si ou des à condition que. À la base des prières, il y a plutôt les trois mots « pardon, merci et s'il te plaît ». Et finalement, ces trois mots-là sont suffisants pour aborder les principales attitudes de prière. Mais le récit biblique veut sûrement ouvrir un sens particulier pour justifier une relation de prière-vœu comme celle d'Anne. Et d'ailleurs, une fois sa prière exprimée devant Dieu, Anne va rester dans le temple pour prolonger sa prière de manière silencieuse. Et au verset 24, on lit « Anne parlait en elle-même, seules ses lèvres remuaient, on n'entendait pas sa voix. » Et le texte ajoute « Élie la prit pour une femme ivre. » Donc il y a pour le grand prêtre quelque chose de suspect à prier sans que des paroles claires soient perçues extérieurement. Et Anne va devoir se justifier devant lui. Mais alors on se demande pourquoi cette préférence pour la prière parlée à voix haute? C'est comme si la prière intérieure et silencieuse n'a pas la même sincérité et la même puissance de relation à Dieu que la prière extériorisée. Est-ce qu'une prière proclamée à haute voix est vraiment la preuve d'une authenticité profonde? Ce n'est pas sûr. On peut réciter des paroles sans y être vraiment attentif.
Mais oui, c'est sûr. Vous écoutez l'émission La Bible en question, nous parlons de la prière dans la Bible. Et nous regardons en ce moment la prière d'Anne, la mère du prophète Samuel. Donc une prière en forme de vœu où elle va offrir son fils pour le service de Dieu si elle est exaucée, c'est-à-dire si elle est guérie de sa stérilité. Il faut dire que dans l'Ancien Testament, la stérilité est présentée comme une véritable malédiction pour les femmes. C'est vraiment le plus grand malheur qui puisse leur arriver. Mais on dirait aussi qu'il s'agit d'une souffrance voulue par Dieu pour que la force de leur prière fasse advenir un miracle et que naisse un fils, alors extraordinaire, dont la destinée semble prévue d'avance, puisqu'elle est indispensable pour le salut d'Israël. En tout cas, Anne n'a pas seulement fait monter vers Dieu cette prière de supplication, mais une fois qu'elle fut exaucée, elle a composé un sublime cantique de louange et d'action de grâce qui va même plus tard inspirer le cantique de la Vierge Marie, le Magnificat. Nous y retrouverons plusieurs formules quasi identiques. Alors, peut-être pouvons-nous prendre le temps quand même de lire ce magnifique cantique d'Anne, donc qui se trouve au premier livre de Samuel, chapitre 2, les versets 1 à 10.
Alors, Anne pria et dit « Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur, pas d'autre Dieu que toi. Pas de rocher pareil à notre Dieu. assez de paroles hautaines, pas d'insolence à la bouche. Le Seigneur est Dieu qui est le Dieu qui sait, qui pèse nos actes. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Quand la stérile enfante cette foi, la mère de nombreux fils dépérit. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en fait remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Au Seigneur, les colonnes de la terre, sur elles, il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses fidèles, et les méchants périront dans les ténèbres. La force ne rend pas l'homme vainqueur, les adversaires du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut tonnera dans les cieux, le Seigneur jugera la terre entière. Il donnera la puissance à son roi, il relèvera le front de son Messie.
Merci. Amen. C'est un magnifique poème d'action de grâce, oui. Mais qui vaut tout un traité de théologie. Anne montre bien qui est le Dieu d'Israël, c'est-à-dire à la fois tout-puissant et miséricordieux, mais aussi juste juge qui s'oppose à la violence des orgueilleux et rétablit les droits des victimes et des opprimés. Voilà, donc une fois guérie de sa stérilité, Anne est heureuse de pouvoir offrir le fils qu'elle a tant espéré pour qu'il aille servir son Dieu dans le temple. Et cette séparation est pour elle à la fois un honneur et une façon d'exprimer sa joie d'avoir été exaucée. En tout cas, Samuel s'adapte bien à sa nouvelle vie et se montre un fidèle serviteur de Dieu. Contrairement, nous dit le texte, au fils du prêtre Élie, ses deux fils qui étaient des Vauriens, nous dit le verset 12 du chapitre 2, des Vauriens qui ne connaissaient pas le Seigneur et puis qui détournaient les offrandes du peuple à leur profit. Quant à Anne, elle fut récompensée d'avoir donné Samuel au Seigneur, puisqu'elle enfanta ensuite encore 3 fils et 2 filles. Pendant que, nous dit toujours le chapitre 2 au verset 21, le petit Samuel grandissait devant le Seigneur. Et le texte insiste encore sur le contraste qu'il y a entre Samuel et les fils d'Élie qui se comportent de plus en plus mal. Dieu va alors prévenir Élie qu'il doit intervenir et corriger ses fils. Malheureusement, ceux-ci ne lui obéiront pas. Ça montre bien que depuis toujours, l'éducation des enfants est problématique et les résultats pas toujours certains.
Ça rassure les parents que nous sommes. Alors, Dieu effectivement envoie un messager à Élie pour lui annoncer les catastrophes qui vont s'abattre sur lui et sur toute sa famille à cause des mauvais comportements de ses fils pour lesquels il est quand même un peu tenu responsable. Et pendant ce temps-là, au verset 26, nous lisons « Le petit Samuel grandissait en taille et en beauté devant le Seigneur et devant les hommes. » Et une relation étonnante va se nouer entre Dieu et lui. Dieu va l'appeler par 3 fois sans que Samuel comprenne qu'il s'agit d'un appel de Dieu. Et chaque fois qu'il entendra l'appel, il ira se présenter au prêtre Élie, qui heureusement finit par comprendre que Samuel est appelé par Dieu pour une mission particulière. Et ce qui est magnifique ici, c'est la réponse tout simple. Et la réponse toute simple et toute droite de Samuel, chaque fois que Dieu l'appelle, il répond seulement « Me voici ». Mais dans cette courte réponse, on sent bien qu'il se présente tout entier, disponible sans aucune réserve pour obéir à ce qui lui sera demandé. Il s'offre corps et âme au Seigneur. Il y a quelque chose d'émouvant dans cette attitude confiante et sincère, et on comprend que ça révèle la pureté de son âme d'enfant, mais aussi Ça nous fait déjà pressentir l'adulte vertueux qu'il deviendra. Malheureusement, la première mission que Dieu donne à Samuel, c'est d'aller encore prévenir le grand prêtre Élie des malheurs qui vont s'abattre sur lui.
Oui, c'est presque l'illustration des mots du cantique d'Anne qui disait « Les méchants périront dans les ténèbres où les adversaires du Seigneur seront brisés ». Samuel est ici, bien qu'il soit tout petit garçon, appelé comme prophète. Et le prophète doit le plus souvent révéler des péchés et annoncer des châtiments. Ce n'est pas un rôle facile. Mais Samuel assumera ce rôle. Au chapitre 3, nous voyons donc verset 19-20, Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël de Dan à Beer-Sheva sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Voilà, donc toute sa vie, Samuel fut en relation avec Dieu. Dieu lui parlait. Samuel transmettait ses paroles à Israël. Mais on pourrait aussi penser que c'est son destin à cause de son nom qui... Shemuel, c'est-à-dire comme Dieu a entendu Anne, mais inversement, on peut le comprendre comme Samuel a entendu Dieu. C'est sa vocation, c'est sa qualité première. En ce sens-là, il devrait aussi nous servir de modèle dans notre relation à Dieu. Dans la prière, pour entendre la parole de Dieu, nous devons d'abord nous mettre à son écoute. Si nous trouvons parfois que Dieu nous parle trop rarement, c'est peut-être tout simplement parce que nous ne sommes pas assez disponibles pour l'entendre. Vous écoutez l'émission La Bible en question, nous parlons de la prière dans le livre de Samuel. Nous abordons maintenant les chapitres 4 à 7, qui racontent comment la punition divine atteint tout Israël à cause de la perversion de la famille du prêtre Élie. Le sommet de ce moment, c'est le vol de l'Arche d'Alliance par les ennemis philistins, qui seront vainqueurs d'Israël par la permission de Dieu. Alors déjà, les deux fils du grand prêtre seront tués pendant une bataille, mais quand on viendra apprendre à Élie que l'arche a été volée, c'est-à-dire que Dieu n'est plus présent au milieu de son peuple, le grand prêtre qu'il est en mourra. Voici ce que dit le texte, chapitre 4, versets 17-18. Le messager lui dit « Israël a fui devant les Philistins. Le peuple a subi de lourdes pertes. Tes deux fils sont morts. » Et l'arche d'alliance a été prise. Dès qu'il fit mention de l'arche de Dieu, Élie tomba de son siège à la renverse. Contre le côté de la porte, il se brisa la nuque et mourut. Voilà. Donc la prophétie de la colère de Dieu s'accomplit. Il faut dire que le texte nous dit un peu avant qu'il avait quand même 99 ans. Il n'était plus très solide. Mais curieusement, Dieu est resté présent dans l'arche dérobée. Et il va faire subir aux Philistins 1000 tourments jusqu'à ce que ceux-ci, terrorisés, décident de renvoyer l'arche à Israël.
Oui, c'est assez étrange, hein, toutes ces actions un peu magiques produites directement par l'arche sans la médiation d'un prêtre ou d'un prophète. Mais ça nous montre un Dieu puissant qui fait peur. Il jette à terre et il détruit la statue du dieu ennemi. Il engendre des maladies dans le peuple et il provoque une panique mortelle dans la ville. Le parallèle est fait au chapitre 6, verset 6, avec les plaies d'Égypte. Mais ici, les Philistins ne vont pas s'obstiner. Ils vont renvoyer l'arche dans son pays. Mais même là, un épisode reste un peu effrayant quand même. À Beth-Shemesh, des hommes vont encore trouver la mort. Au chapitre 7, versets 19 et 20, nous trouvons « Le Seigneur frappa les gens de Beth-Shemesh parce qu'ils avaient regardé l'arche du Seigneur. Parmi le peuple, il frappa 70 hommes. Le peuple fut dans le deuil parce que le Seigneur l'avait durement frappé. Les gens de Beth-Shemesh dirent « Qui pourra se tenir en présence du Seigneur, ce Dieu saint ?» Alors, ici, nous avons une vision de Dieu très archaïque, quand même. Un Dieu terrifiant, redoutable. Alors, ce Dieu-là, n'importe qui ne peut pas s'approcher. Et c'est cette vision qui fait que dans le sanctuaire, l'arche reste cachée. Elle n'est pas accessible. Elle n'est accessible qu'au grand prêtre. Et cette vision justifie encore le rôle d'un sacerdoce médiateur. Et même la foi chrétienne n'a pas fait disparaître cette crainte devant la puissance de Dieu. Dieu, dans la sainteté, ne supporte pas d'être approché par le péché.
Oui, ça remonte jusqu'à Moïse, au livre de l'Exode, chapitre 33. Le verset 20 disait déjà que nul ne peut voir Dieu et rester en vie. Mais il faut avouer que ça ne rend pas la relation à Dieu très facile. Quand on veut prier et qu'on meurt de peur, c'est un peu angoissant. Heureusement, tous les textes vont quand même encourager non pas à voir Dieu, mais à entendre sa parole. Même si sa parole est peut-être redoutable, au moins elle ne tue pas. Du moins, pas si on se montre docile à ses enseignements, parce que pour les opposants, c'est quand même plus compliqué. En tout cas, après avoir rendu l'arche à Israël, les Philistins vont rester quand même maîtres de la région pendant 20 ans. Donc une oppression pour Israël. Après quoi le peuple, quand même, vient se plaindre à Samuel. Et lui les exhorte alors à purifier leur culte religieux, à rejeter les dieux étrangers, et à ne plus sacrifier qu'au seul Seigneur Dieu d'Israël. Donc, ils sont quand même mis en cause pour leur culte d'idole. Mais comme ils se corrigent, Samuel devient pour eux un chef de guerre contre les Philistins. Il offre un holocauste en sacrifiant un agneau au Seigneur, et puis donc, il crie vers Dieu, nous dit le texte, une prière d'intercession qui fut exaucée. Les Philistins seront donc facilement vaincus, et dès lors, puisqu'il y avait l'aide de Dieu maintenant, et donc Samuel est reconnu comme juge sur Israël. Vous savez que c'était un critère, il fallait être un chef de guerre. La fin du chapitre 7 nous dit d'ailleurs ceci, « Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. Il partait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mizpah. Il jugeait Israël en tous ces lieux. Il rentrait ensuite à Rama, car c'est là qu'il avait sa maison. C'est là qu'il jugea Israël et là qu'il construisit un autel au Seigneur. »
Mais alors, finalement, quelle est exactement la fonction de Samuel? Il commence par être apprenti clerc dans le temple. Ensuite, il est accrédité comme prophète pour tout Israël. Puis, il offre un sacrifice au Seigneur comme un prêtre qu'il est sans doute devenu pour remplacer Élie après sa mort. Et enfin, il endosse la fonction de juge en Israël, titre qu'il mérite grâce à sa victoire militaire sur les Philistins. Il joue donc tous les rôles à la fois pour diriger Israël. Alors sans doute a-t-il mérité ce pouvoir omniprésent parce qu'il a montré de très grandes qualités morales et spirituelles. Mais il me semble qu'il est en même temps un mauvais exemple pour les dirigeants politiques et religieux en général.
Eh oui.
Si on le prend pour modèle, on peut facilement devenir un despote qui s'accorde tous les pouvoirs. C'est peut-être supportable si la personne est vraiment vertueuse, mais s'il s'agit d'un tyran égoïste et cruel, ça ne peut apporter que du malheur à son peuple. Donc la confusion de tous les pouvoirs en une seule personne est vraiment quelque chose de dangereux. Ça, on l'a bien vu. Et on le voit même dans l'Église. Et parfois même dans les paroisses. En tout cas, le fait est que les résultats de Samuel ne sont pas parfaits puisque sa propre famille, dans sa propre famille, c'est l'échec à lui aussi. Donc ses fils qu'il avait établi comme juge pour lui succéder selon le chapitre 8 et 2, chapitre 8 verset 2 pardon, ne marchèrent pas sur ses traces. Dévoyés par l'appât du gain, acceptant des cadeaux, ils firent dévier le droit.
Oui, on appellerait ça des pots de vin aujourd'hui. Hein. En tout cas, c'est certain qu'ils ne doivent pas rester au pouvoir. Le peuple en est très conscient. Donc les anciens d'Israël vont venir trouver Samuel pour lui dire, toujours chapitre 8, mais verset 5, « Te voilà devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, donne-nous un roi pour nous juger, comme toutes les nations. » Voilà donc le pouvoir des juges définitivement désavoué par le peuple. Mais malheureusement, la solution qu'il propose est de prendre le même modèle politique que les autres nations, un roi. On veut être comme tout le monde. Et donc ils veulent renoncer au modèle théocratique que Dieu leur avait proposé. Mais en fait, il faut quand même bien dire, pour ce modèle-là, ils n'avaient pas montré beaucoup de bonne volonté. Rappelons-nous la dernière phrase du livre des juges, « Chacun faisait ce qui lui plaisait ». Et donc, malgré Samuel, la situation en Israël est de nouveau mauvaise. Et bien qu'il ne soit pas du tout d'accord avec la demande d'un roi, il va quand même se tourner vers Dieu pour transmettre les revendications. Et voici la réponse de Dieu. Le Seigneur dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. » Voilà, donc une étonnante réponse de Dieu, une réponse double. Un roi est une très mauvaise solution, mais donne-leur ce qu'ils demandent.
Oui.
Cela présage, comme on sait, un avenir difficile pour Israël, mais en même temps, ça nous donne un avertissement. Quand vous priez, faites donc très attention à ce que vous demandez à Dieu, parce que Dieu peut vous le donner. Nous verrons donc la semaine prochaine, plutôt dans la prochaine émission, le mois prochain, comment Samuel va instituer la royauté sur Israël. À présent, nous vous disons au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Au revoir Catherine, au revoir à tous.